Actu SF, les podcasts.
Alors, je vais pas présenter Hélène Dury, qui est la traductrice de Robert.
Donc non, je n'invente rien. Quand j'écris, je choisis toujours un modèle dans le monde réel. Je me base donc sur le monde réel d'aujourd'hui. J'en fais de la fantaisie et je change un peu le monde. Mais c'est pour mieux étudier notre société, de la même façon qu'un critique d'art un jour dit que les peintres qui se peignaient eux-mêmes cherchaient justement, en modifiant leur visage, voir quels traits étaient réellement les leurs, lesquels reflétaient réellement leur caractère. Je pense que je fais la même chose dans mes livres pour essayer d'étudier notre société.
Ok. Alors passons à la deuxième de nos invités. On commence par Jeanne-Mariam. Jeanne-Mariam Corrèze, vous avez écrit Le Chant des Cavalières, qui est sorti en 2020 au Mouton Électrique. Est-ce que c'est difficile de faire entendre sa voix quand on est une jeune autrice, de faire entendre une voix différente? Est-ce que c'est ça votre magie à vous, d'essayer de créer une voix différente?
Ça
je vais la laisser réfléchir et passer.
Je peux avoir 2 heures et un peu de brouillon et tout.
C'est ma spécialité. Je demande des dissertes à tous les auteurs qui viennent.
Ouais, ok. Oui, alors, je ne sais pas si c'est...
Alors, je vais un tout petit peu dévoiler le sujet. Ah. On est sur Sophie, l'héroïne de Jeanne, et donc Sophie, une novice de l'Ordre des Cavalières, qui se retrouve un peu entraînée dans une destinée qu'elle ne choisit pas. Pour moi, le centre du roman, c'est la question de l'émancipation. C'est la question de... Je pensais poser cette question très très loin, mais je vais y venir maintenant. Est-ce que la magie est un moyen d'échapper à sa destinée, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui nous y enferme?
Merci. C'est plus simple. Je pense que dans le cas de Sophie, moi, je suis contente que vous dites que l'émancipation, c'est le centre du roman, parce que c'est clairement... Moi, ce que j'avais envie d'écrire, c'était un roman d'émancipation, par rapport après... un peu dans un classique de fantasy, à un destin avec un héros qui serait choisi, qui aurait une destinée, qui aurait une prophétie qui soit écrite autour de ce personnage, parce que dans Le Chant des Cavalières, c'est un peu un spoil, mais bon, ça fait un an et demi qu'il est sorti, donc on va dire qu'il y a prescription.
Vous avez tous lu, bien sûr.
Voilà, bien sûr. Donc, en fait, la prophétie qui est dans le roman n'est pas une prophétie, on va dire, réelle. Il n'y a pas de prophète qui aurait dit « Voilà, cette personne va réaliser ces choses-là ». C'est complètement créé artificiellement par les personnes qui veulent mettre Sophie en place pour leurs différents jeux de pouvoir. Donc c'est, enfin, ça, c'était, il y a clairement, on va dire, une manipulation de la magie. Après, du coup, c'est pas de la magie, on va dire, réelle. Il y a pas de mages qui ont des bouts de feu avec leurs doigts comme ça. Et c'est complètement manipulé de A à Z par tout le monde. Même s'il y a aussi de la prophétie, enfin, une maîtrise de la lecture de l'avenir, je sais pas comment on dit.
J'ai pas encore posé la question à Robert, et je vous la poserai à chacun à votre tour, mais comment est-ce que vous définissez la magie de votre livre?
Alors moi, je voulais pas qu'il y ait une magie qui soit prépondérante, on va dire. Du coup, j'étais un peu
étonnée. Elle est pas au cœur du récit, du
voilà,
coup.
Juste, enfin, en tout cas, dans mon angle de vue, c'était ça. Mais je voulais que ce soit lié à la fabrication. Donc c'est pas très développé dans ce roman-là, parce que c'est un univers un peu large que j'espère pouvoir découvrir plus plus tard. Et on va dire que pour l'instant, l'idée, c'est que la magie dans ce monde, c'est vraiment les artisans qui la possèdent. Donc elle est dans les manteaux tissés des cavalières qui peuvent les protéger un peu des coups et des blessures d'une certaine façon, de façon légère, mais un petit peu quand même.
La magie n'est pas au cœur du roman, mais il y a des dragons. Bon, je dis ça,
oui.
Je dis rien.
Alors pour le coup, on m'a un peu reproché, mais c'est vraiment ça sert de bête de trait. Hein. Enfin, c'est des dragons, mais c'est des chevaux, quoi. Enfin, c'est juste qu'ils ont des ailes et des plumes, du coup. Oups. Et voilà. Enfin, donc c'est vraiment. Enfin, je voulais que ce soit très.
Oui, c'est pas les dragons de Perne.
Non. Ils sont pas très âgés. Ils sont complètement. C'est complètement des animaux. On va dire.
C'est des petits poneys, un peu.
Ouais. Ouais, c'est mon petit poney. Friendship is magic, quoi. Enfin. C'est un peu. Bon, peut-être pas.
Sans la friendship.
Ah ouais, non. Enfin, je sais plus. Je sais, ouais, enfin, peut-être dans ma tête il y en avait, mais peut-être que c'était pas, ça s'est pas transcrit peut-être autant que je le voudrais. Mais c'est vrai que la magie était assez secondaire, et la seule personne qui est vraiment maître de magie dans cette histoire, c'est du coup c'est un homme, donc c'est intéressant parce que, enfin, moi je trouve ça intéressant parce que tous les personnages quasiment sont des femmes, enfin il y a quasiment que des personnages féminins.
Oui, alors si vous êtes féministe, vous pouvez lire ce roman avec délectation, vraiment. Enfin, je trouve que c'est vraiment un aspect essentiel de dépeindre une société qui est organisée autour du féminin, une société qui est féminine, pas féministe, féminine, principalement. Et le fait qu'on ne parle pas des hommes, ça ne pose pas de questions. Mais remémorez-vous tous les romans où on ne parle pas des femmes et ça ne pose pas de questions. Et vous verrez que c'est très facile à lire, finalement.
On va pas lancer des pics tout de suite, mais dans le deuxième tome de Même pas mère de Jaworski, il n'y a pas une meuf à un seul moment. Et c'est pas forcément pour les problèmes dans ma lecture, dans le sens où je le notais, mais c'était bien quand même. Donc je me suis dit, normalement, si je fais mon travail correctement, ça ne devrait pas poser de problème en retour. Il ne devrait pas y avoir de soucis pour les lecteurs. Si j'arrive à faire mon travail d'auteur et à les faire rentrer dans l'histoire, il ne devrait pas y avoir de soucis à ce que le personnage masculin soit extrêmement secondaire, puisqu'on est capable de suspendre notre incrédulité pour des livres où la moitié de l'humanité disparaît. Ben normalement, dans l'autre sens, ça devrait être possible. Ça devrait plutôt être agréable, peut-être même.
Ouais, je ne raconte pas ce que c'est quand on est noir, en plus, et qu'on sait qu'on n'est pas dans les étoiles, pas dans les romans.
Oui, en plus. Alors, voilà. Ça, pour le coup, aussi, c'était important pour moi d'avoir des personnages qui soient racisés dans le roman. Parce que, du coup, par ailleurs, la moitié de ma famille l'est, parce que moi, ça se voit pas. Mais ma sœur est très métisse. Enfin, j'ai rien pris. Tout pris le néerlandais, elle a tout pris l'indonésien, on va dire. Et du coup, c'était important pour moi que le personnage principal ait ses traits et son visage, et qu'elle puisse se retrouver elle aussi dans des romans, et qu'elle ait pas, même si c'est pas trop son délire, elle est pas intersectionnelle, hein. Mais je voulais quand même qu'elle ait ça, et je voulais que autour de Sophie il y ait des personnages de féminins, des femmes du coup de couleur, et qu'elles soient, enfin, de femmes racisées, et qu'elles soient dans des positions de pouvoir, et que ce soit pas ramené à ça, déjà parce que je sais pas si c'est ma place de raconter forcément les défis du racisme, enfin face au racisme, et donc je me suis dit peut-être qu'on peut imaginer une société où ça soit pas trop le cas, ce soit pas ça le problème, on va plutôt parler d'émancipation, voilà, de personnages qui sont très à cheval sur les attentes qu'on a pour eux, et c'est plutôt, ça va être un récit plus intime et sur vraiment le soi peut-être universel, enfin voilà, mais du coup avec quand même, sans passer du coup par la case c'est universel, donc c'est un mec blanc cis hétéro quoi.
Enfin, on est beaucoup à avoir grandi en lisant des romans où on ne pouvait pas tellement se sentir représenté, et on a grandi quand même, et notre imaginaire est aussi puissant que celui des autres, donc je crois pas que ça posera de problème à plein de lecteurs. Pauline, est-ce que ça y est, vous êtes prête pour mes questions intellectuelles à deux balles? Vous avez eu le temps de réfléchir?
Non, pas trop.
Bon, alors Pauline, Rocaille est un premier roman qui est paru chez Silex. Qui est un éditeur particulier. Je suis contente que vous ayez pu faire ce choix, et c'est un éditeur auquel je tiens beaucoup. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que j'aurai l'occasion d'en parler avec Isabelle Botian, mais oui, c'est un éditeur qui propose une façon de voir l'édition un peu différente. Votre roman aussi propose une façon de voir la fantasy un peu différente. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Rocaille, est-ce qu'on peut dire que chez vous... Est-ce que la météo est un problème pour vous au quotidien, et est-ce que vous êtes inquiète des changements climatiques? Parce que quand même, c'est très très important dans Rocaille.
C'était pas mon idée première initialement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait une relecture écologique, on va dire, du récit. Je pense que j'étais influencée d'une manière ou d'une autre, mais c'était pas au début. J'étais vraiment partie sur l'idée de construire un monde différent d'une autre. Et effectivement, après, il y a tous ces soucis de météo, il y a cette terre aride. Donc, effectivement, ça rejoint des problématiques.
Actuel. Oui. Et auquel assez peu de gens s'intéressent finalement.
Trop peu, peut-être.
Trop peu. Trop peu. Et est-ce que vous pouvez vous aussi nous définir un petit peu quelle est la nature de la magie au cœur de votre récit?
Elle est un peu double au début, oui. En particulier au début du roman, puisqu'il y a la magie officielle, on va dire. C'est la Rocaille étant un pays où il n'y a aucune verdure qui pousse. Il y avait le problème de donner à manger aux habitants, en fait. Sinon, il n'y aurait pas eu de...
Est-ce que vous voulez que je pitche un peu comme j'ai fait
peut-être.
Ok, je fais très peu ça d'habitude, mais là, je sens que... l'idée de Rocaille, c'est qu'effectivement, personne ne peut rien faire pousser nulle part. Donc, il faut bien manger. Il n'y a pas d'animaux qui peuvent se nourrir, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien. Mais il y a une royauté qui, du fait de son sang, réussit à produire de la nature, réussit à produire des poires, des pêches et des Scooby-Doo. Non, pas de Scooby-Doo, c'est une vieille chanson. Et donc, le roi de cette terre qui... n'est pas très conscient de la difficulté de fournir de la nourriture à tout le monde, rien qu'avec ce qu'il produit lui. Donc il y a une question d'inégalité. Enfin, je pense que c'est vraiment, là aussi, tout comme l'émancipation est importante, je pense que la justice sociale ou la justice qu'on peut imposer dans une société ou l'injustice qui y règne, c'est important dans votre roman. Donc ce roi est assassiné et ça pose problème parce que c'est quand même lui qui fournit la nourriture. Donc les mêmes personnes qui l'assassinent décident finalement de le ressusciter. Je fais un peu court. C'est un peu raté, hein, comme souvent les histoires de zombies et de rappel à la vie. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de Buffy. Ça peut pas très bien se passer quand on revient à la vie. Et pour Gezil, c'est bien comme ça qu'on prononce ?
Je dis plutôt Gezil,
mais bon,
dire,
voilà,
on peut dire les deux. Hein.
Moi, je dis Gezil parce que je pense au Grésil, mais voilà, c'est peut-être une allitération juste dans ma tête. Il parcourt Rocaille pour essayer de retrouver ce qu'il a perdu en mourant. Voilà. Pour continuer un tout petit peu en dévoiler, mais vraiment, moi, je suis pas la fan du spoil. Hein, c'est pour ça que je pitch assez peu. Les personnes qui cherchent à le remettre en place à la tête de sa royauté vont essayer de faire appel à une ancienne magie qui avait disparu, que les siens même avaient fait disparaître. Et c'est cette quête pour un magistre qui accompagne tous les protagonistes au cœur du roman. Voilà. Donc il y a cette question de qui détient le pouvoir quand personne ne mange. Est-ce que c'est facile de retrouver le sens de sa vie qu'on a perdu. Enfin voilà, il y a plein de questionnements qui sont passionnants. Et donc, pour décrire la magie en particulier, il y a celle du roi vert, et puis il y a celle du magistre.
Oui, il y a deux magies. Il y a celle qui permet au pays de survivre, en fait. C'est la magie verte des rois qui peuvent produire donc du coup de la verdure, mais elle est cloisonnée, elle est enfermée dans le château. Ils n'ont pas le droit de sortir du château. On ne sait pas ce qui se passe, mais ils n'ont pas le droit de sortir du château, c'est comme ça. Du coup, elle est, comme on disait, c'est assez inégal parce qu'elle est, elle est gardée entre les mains des souverains et elle n'est pas vraiment partagée avec les habitants ou au compte-gouttes à l'extérieur du château. Et la deuxième magie qui existe, c'est la magie ancestrale, mais qui a disparu, qui a été éteinte par les rois verts, justement, qui est très instinctive et qui est incarnée par un unique magistre, le tout dernier de sa lignée, qui n'a aucun repère pour le coup. C'est une magie qu'il doit apprendre par lui-même parce qu'il n'y a aucun autre magicien. Donc c'est à lui de se débrouiller pour comprendre comment ça fonctionne.
Et est-ce que autant que l'émancipation chez Jeanne, est-ce que chez vous c'est la découverte de soi qui compte pour le magistre, c'est comment on se construit quand on n'a aucune histoire, aucune base, aucun élément de comparaison, aucun maître.
J'ai essayé de travailler là-dessus, en tout cas je trouvais ça intéressant, l'idée d'un magicien mais qui n'avait aucun repère sauf des vieux bouquins, et en plus il ne sait pas lire, sauf des vieux bouquins d'autrefois qui évoquent des sorts avec des noms tarabiscotés, alors que lui, d'une part, il ne sait pas lire, d'autre part, ça ne lui parle pas. Et c'est purement instinctif. C'est à chaque fois qu'il lance un sort, au début, c'est complètement hasardeux, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il y a beaucoup de catastrophes. Et j'aimais bien cette idée que il se construit naturellement et en même temps, il doit construire sa magie en lui. Et par rapport à lui et par rapport au monde aussi, parce que sa magie réagit avec la rocaille qui est dans un état désastreux. Et il y a cette ambivalence de savoir si ça va être une magie positive, créative, ou si ça va être destructive, justement. Comme il ne sait pas vraiment comment la manipuler.
Alors, passons à Éléonore, qui a eu vraiment le temps de se préparer, là, pour le coup. Éléonore de Villepoix, vous avez écrit La ville sans vent, qui est sortie chez Hachette Roman, qui est un diptyque. Le deuxième tome s'appelle La fille de la forêt, hein, c'est ça. Alors, pour vous, on part du principe d'une ville. Ce qui est assez intéressant, je trouve, dans ce panel, et même si ça ne vous semble pas, parce que moi j'ai un peu travaillé sur les livres, si ça ne vous semble pas évident, puisque le titre c'est Quand la magie est au cœur de vos histoires. Ce qui est assez étonnant chez ces quatre auteurs et autrices, c'est que la ville est au cœur de vos histoires aussi. Dans chacun de vos romans, il y a un peu un sens, peut-être un peu moins chez Jeanne, mais il y a quand même un sens. il y a un endroit central quand même. Les villes sont au cœur de vos histoires. J'y reviendrai très vite avec Robert parce que j'ai vraiment une question à lui poser qui paraîtra sans doute un peu provocante, mais j'espère qu'il pourra y répondre. Hélène est déjà atterrée par cette idée. Bon, on finit avec Éléonore. Donc, pour vous, dans la ville sans vent, l'idée, c'est que, est-ce que vous essayez de nous faire croire que la politique, c'est magique ?
Alors, je travaille...
À condition de secouer l'ordre établi, bien évidemment. Mais est-ce que c'est un peu ça, votre but avec ce diptyque ?
Pas vraiment, pour être honnête, mais j'aime beaucoup la question parce que je travaille en politique, donc non, je dirais pas que c'est magique au quotidien. En fait, c'est vrai qu'il y a clairement la magie.
Je vais pour essayer d'être équitable avec tout le monde, je vais essayer de pitcher aussi un tout petit peu La Ville sans vent. La Ville sans vent, on suit un jeune mage assez doué qui s'appelle Lastianax et qui a 19 ans, qui est apprenti, qui s'apprête à gravir petit à petit les échelles d'un ordre très 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 hiérarchisé. Et finalement, son maître est tué. Et il se retrouve très propulsé au sommet alors qu'il ne s'y attendait pas. Et pour découvrir qui a tué son maître, parce que lui, il n'est pas tellement certain de la mort accidentelle ou de la mort sans meurtrier derrière, il se retrouve, on va dire, accoquiné avec une jeune femme, une jeune fille plus, qui s'appelle Arca. Et tous ces gens vivent dans une ville qui est sous verre, qui s'appelle Hyperborée, et dans laquelle, et c'est là que vous allez intervenir, la magie qui est utilisée est l'anima. Est-ce que vous allez pouvoir nous décrire comment fonctionne cette magie ?
Oui, alors, je dirais que ce n'est pas la partie la plus originale de mon roman, parce qu'on retrouve ça assez dans pas mal de romans de fantasy. Mais donc, le principe de l'anima, c'est tout simplement chaque personne dispose d'une quantité de puissance impalpable, intouchable, invisible qui permet d'interagir avec le monde qui nous entoure. Donc en soi, c'est pas spécialement extraordinaire. Mais ce que je trouve intéressant, ce que j'ai en tout cas essayé de déployer dans mon roman, c'est l'idée que donc cette magie est quelque part accessible à tous, mais à des degrés différents, parce qu'elle est... il faut passer par une formation pour développer ses dons, etc. Et en fait, là où je lis la magie à la politique, c'est que dans cette ville qui s'appelle Hyperborée, où, comme vous le disiez juste avant, il y a une très grosse hiérarchie, il y a un ordre politique qui domine la ville, à la fois symboliquement, mais aussi physiquement, parce qu'elle se trouve tout en haut de la ville. Dans cet ordre politique, l'accès à cet ordre politique est conditionné par la maîtrise de la magie. Et donc, on va se retrouver en fait avec ce personnage, ces deux personnages qui sont en fait finalement un peu des arrivistes, parce qu'on a d'une part le jeune mage Lastianax qui lui vient de la partie basse de la ville, qui est la partie paupérisée de la ville, et qui a vraiment, c'est la figure de l'ambitieux qui essaye d'arriver et qui a
un peu le jeune qui en veut.
Le jeune qui en veut et qui a développé ses dons par son travail, par son ambition, etc. Et à côté de ça, on a elle, pour le coup, elle débarque vraiment. C'est Arca, c'est donc la jeune fille qui va l'accompagner, ils vont former un duo de personnages dans ce roman. Et Arca, à l'inverse de la Sienax, elle, c'est finalement rien dans le travail, tout dans le don naturel, on va dire. Et donc, elle aussi, elle va avoir à finalement servir de la magie pour se retrouver dans ce monde politique. Bon, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question.
Ça répond. Je reviens à vous, donc, Robert, puisqu'on a maintenant présenté nos différents systèmes de magie, sauf le vôtre, justement. Est-ce que pour vous, si je dis que votre magie est une magie qui reprogramme, Est-ce que c'est une bonne façon de la décrire dans les enlumineurs, dans les mettre en lumineurs?
Yes, that's perfect. The way that I had this idea was I was trying to think about what magic was, And, you know, in all these, like, stories, there is magic that the world depends upon. Like, the world, like, it is critical to how the world functions. But in a lot of stories, it doesn't feel intuitive as to how someone could have discovered magic or how it even works. Like, in Harry Potter, there's a stick that you put a feather in, and if you hold it right and say some Latin words, the world will change. And that is it, like, how could someone, like, work toward that? How would you, like, experiment until you found out how that happened? I mean, I can't imagine how someone would could do that. So I sort of thought to myself, like, okay, so what is magic at its heart? And I decided that magic is instructions that we give to the world for it to change. And you see that in lots of stories. And then I thought about it a bit more, and I thought it was like a contract that we write with the world, like, you know, with the devil or with fairies, where there's rules and there's loopholes, and you have to make sure that you've checked all the parts of it so that things don't go wrong. Things always go wrong because that's fun. And so I thought about trying to make a world where the magic worked as law, but that seemed to be all about lawyers, which is not great. So that would be a terrible book. So instead, I thought that it made more sense to be more like programming, where you have to give instructions to like objects to change how they function. And the one that I always use is, it's like an arrow. You can write like instructions on an arrow, so that when it pops out of the bow, they say to the arrow, you're actually not flying out of a bow. You are falling straight down out of the sky, and you have been for about 300 miles. So when it leaves your bow, it flies straight, and it goes super, super fast. And this is much more destructive and more like accurate than an arrow. And so trying to think about the ways you can give instructions to change the physics of the world was a really fun part of the story, and made it a joy to write.
Alors oui, effectivement, moi quand j'ai commencé à écrire mon roman, je me suis demandé qu'est-ce que c'est que la magie en soi, parce que souvent dans les histoires, le monde que l'on crée dépend de la magie pour fonctionner correctement. Mais en même temps, comment cette magie a-t-elle été découverte, et comment elle fonctionne? Il y a de quoi se poser des questions. Quand on voit par exemple Harry Potter, on se dit, ok, donc ils mettent un bout de plume dans une baguette, et si on la bouge correctement et qu'on dit trois mots en latin, ça fait de la magie. Qui est allé trouver ça? Enfin, comment ils ont découvert que ça marchait, en fait? Moi, je me suis dit, on va essayer de chercher qu'est-ce que la magie en elle-même. Et pour moi, la magie, ce sont des instructions qu'on donne au monde pour qu'il fonctionne différemment. Donc, j'ai envisagé ça au début comme un contrat, comme on passe parfois un contrat avec le diable ou avec des fées. Et bien sûr, dans ces contrats, il y a toujours les petites notes en bas de page, et que si on n'a pas bien étudié la question correctement, ça part en vrille. Et en général, ça part en vrille parce que c'est plus rigolo. Donc j'ai pensé à ça, après j'ai pensé envisager la magie comme des lois, mais bon, ça aurait fait de nous tous des avocats, je sais pas, je me suis dit que ça allait pas être terrible comme bouquin, et j'ai fini par arriver à l'idée justement de programmer un peu comme on programme un ordinateur, et du coup, donc on inscrit des choses par exemple sur une flèche, on va inscrire des choses dessus pour lui faire penser que quand elle quitte son arc, plutôt que d'aller tout droit, elle tombe en fait du ciel, depuis 300 km, ce qui fait que votre flèche, elle va aller tout droit et elle va aller extrêmement vite. Du coup, j'ai envisagé ça comme ça. Ce sont des instructions qui modifient la physique dans le monde réel.
Et la question un peu provocante que je m'apprête à vous poser et qui du coup fait le lien entre plusieurs de vos romans, dans American Elsewhere, dans la trilogie Divine Cité et dans Les Maîtres en Lumineur, les personnages centraux sont toujours une femme. Ça, merci. Mais est-ce qu'on peut dire que pour vous, chaque roman, c'est un peu une ville, une femme, une magie?
Each novel is a city, a woman, and a magic system.
Oui.
lisez-le, c'est trop bien.
Okay.
Je m'attendais à une réponse un peu plus longue.
Oh, yeah. I think some of it is what is easy to sort of write and sort of like work in. Because it's nice to write in cities because it all takes place in one place. And it's sort of like, you know, there's lots of like stories where the protagonist is young and from the country and does not understand anything. That's very easy to write because all the things that happen in this world happen for the first time to this person, which is the same way that happens for the reader, which is why it's a lot easier to put them in that sort of a mode. But for cities especially, cities are how are like an expression of how we organize law and justice and who is important and who isn't. These are important questions for us as to how we live in the world, as well as how we deal with land, how we deal with trees, how we deal with like nature. I think a city is like an expression of history as well as your values, system. So seeing how the magic is woven into a city and seeing how someone like navigates that system of both magic and values is, I think, at the heart of all the stories that I am like most interested like in exploring. It's not true that all of them are women. The last one of Miracles was a dude. I don't think it's that unusual to have a female protagonist. I guess a woman, magic, city, cool, soul.
Alors en fait, c'est plutôt une question de ce qui est le plus facile à écrire. Déjà, quand on a une ville et que tout se passe au même endroit, bon bah voilà, c'est un peu plus simple. Après, c'est un peu comme dans beaucoup d'histoires, si on prend un personnage qui est jeune et qui habite à la campagne et qui comprend pas tout, bah à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de nouveau, c'est aussi quelque chose de nouveau qui arrive au lecteur, donc quelque part ils grandissent ensemble, c'est un peu plus simple. Mais pour moi, les villes, c'est vraiment le lieu qui exprime comment les lois fonctionnent, la justice, qui est important ou pas dans l'histoire. Et je pense que vraiment, les villes reflètent à la fois l'histoire, avec un grand H, et les valeurs d'une société. Et du coup, bah, quand il y a un système de magie dans la ville, on voit comment les personnages peuvent justement naviguer entre la magie et les valeurs. Et c'est vraiment ce que j'aime mettre au cœur de mes histoires. Alors d'abord, c'est pas vrai que mes personnages sont toujours féminins. Le dernier que j'ai écrit, c'était un gars. Voilà. Il y en a un, c'était un gars. Alors après, ça me paraît pas spécialement inhabituel que ce soit des femmes en personnage principal, mais vous avez raison. Une femme, de la magie et une ville, et hop, le tour est joué.
Puisque Robert vient d'évoquer un tout petit peu le world building en parlant de la différence entre traiter une cité et traiter un personnage qui vient de la campagne et qui progresse vers un peu plus de connaissances et un peu plus de ville peut-être. Je trouve ça intéressant en fantasy souvent d'ailleurs qu'on oppose la campagne qui serait un peu naturelle, sans magie et sans complot et sans difficultés politiques, à la ville où tout d'un coup tout se passe et tout se centralise. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne réellement? Je suis pas certaine qu'à la campagne il n'y ait pas aussi beaucoup de choses magiques qui se passent. Est-ce que justement, en parlant de world building et de contexte et d'environnement que vous mettez dans votre roman, qu'est-ce qui est pour vous, puisqu'on le titre de cette table ronde, c'est le cœur du récit. Qu'est-ce qui est au cœur du récit? Est-ce que c'est le système de magie? Est-ce que c'est la construction du monde? Est-ce que c'est les personnages? Est-ce que c'est l'intrigue? Qu'est-ce qui vous semble le plus important à mettre en avant?
Oui. Pour moi, c'est un peu tout. Enfin, okay. En l'occurrence, quand j'ai commencé à travailler sur La Ville sans vent, justement, je me disais quels sont les éléments importants d'un récit, le décor, enfin le lieu, les personnages, l'intrigue. C'était quoi les autres?
L'intrigue, les personnages, le système de magie.
Le système de magie, oui aussi. Ouais, j'ai réfléchi à toutes ces choses en amont et j'ai essayé de travailler chacun de ces aspects. Donc après, le système de magie, je dirais que ça dépend vraiment de l'histoire, en l'occurrence. De manière générale, il y a beaucoup d'histoires qui peuvent se passer d'un système de magie en général, mais c'est sûr que si on veut en faire quelque chose de central, dans ce cas-là, il faut le travailler, évidemment.
Ouais. Est-ce qu'on peut partir du principe que s'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fantaisie? ou est-ce que vous seriez friand d'univers d'univers fantastique ou fantasy un peu médiévaux ou peu importe d'autres systèmes où il y aurait pas du tout de magie. Pour moi c'est ça fait partie des choses qui m'ont sorti de la lecture de George Martin où je sais que je vais blesser plein de gens mais je trouvais que c'était très très semblable à un roman historique français comme Les Rois Maudits et qu'il y avait pas de en dehors des dragons qu'on voit très vite au début et qui disparaissent enfin qui n'apparaissent plus il n'y avait pas assez de magie pour moi Martin était vraiment l'antithèse de ce que j'avais envie de lire en fantasy. Est-ce que vous pensez que après je pense à des autrices françaises comme Justine Yogret qui écrit quelque chose qui est très très minéral et très très fantasy dans la façon de traiter et en même temps où il n'y a pas de magie son héroïne est une mercenaire je dirais que la seule magie c'est que l'héroïne est une femme mercenaire un peu qui ressemble à rien et que ça c'est un peu différent de ce qu'on lit d'habitude en fantasy médiévale. Alors est-ce que la magie c'est automatiquement ce qui construit la fantasy pour vous?
Je dirais que quand même grosso modo ça fait partie de la définition même du terme fantasy. Après est-ce que pour autant la magie doit constituer le cœur du récit? Ça effectivement je pense que c'est absolument pas nécessaire. Et d'ailleurs comme on parlait de Game of Thrones juste avant, au tout départ la magie c'est quelque chose qui est géographiquement parlant à la frontière. Enfin, il y a le nord, on entend vaguement parler des dragons, etc. Mais c'est vraiment pas au centre. Et effectivement, ce qui importe sont les questions, les batailles entre les familles, etc. Donc, je pense pas que la fantasy soit nécessaire parce que pour le coup, j'ai adoré aussi le début de Game of Thrones, ces derniers livres où là, la magie prend beaucoup plus d'importance, etc. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de magie pour apprécier, pour avoir un bon roman de fantasy, je dirais. Mais je trouve quand même que ça fait partie du genre lui-même, en fait.
Ça va rejoindre un peu ce que tu disais. Je suis d'accord. Pour moi, ça fait effectivement en grande partie du genre. Moi, en tout cas, j'ai toujours envie d'écrire des choses autour de la magie quand j'ai envie d'écrire de la fantasy. Mais après, effectivement, il y a certains ouvrages où il y en a très peu, où il n'y en a pas, qui sont quand même dans la fantasy. Je pense en particulier en fantasy historique, on peut en trouver. Je pense à Guy Gavrielke, pour ceux qui connaissent, ou notamment ses derniers romans. Ces derniers romans écrits, pas publiés en français. Il y en a où il y a très très peu de magie, comme Enfant du ciel et de la terre. Je crois qu'il y en a très très peu, il me semble, pour ceux qui connaissent.
La magie de Guy Gavrielke, c'est la qualité de sa littérature.
On la trouve ailleurs, mais pour moi, c'est aussi de la fantasy. Il y a très peu de magie et ça ne me manque pas dans ces ouvrages-là. Okay. Moi, ça me manquerait quand j'écris, par contre.
Jeanne ?
Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Vraiment, s'il n'y avait pas de magie du tout, ça ne me gênerait pas. Pour le personnage de Myrdjin, qui est le seul vrai mage dans mon roman, je pense que mon but, c'était plus d'en faire une sorte de figure politique que d'en faire un magicien. Enfin, il est magicien parce que je l'avais un peu créé déjà d'avant et qu'il a un peu. Enfin, j'ai des flashs de personnages et après, je les recoupe pour les mettre ensemble, mais il n'était pas. Enfin, il n'a pas été créé en tant que magicien. Enfin, il est écrit comme un magicien, mais pas son importance dans le Jeu des Cavaliers n'est pas parce qu'il est magicien, même si c'est lié, parce que ça se trouve être comme ça après, mais ça pourrait être un peu. Enfin, pour moi, mon but premier, c'était de faire comme si les gens. Enfin, de faire ressentir qu'il était un peu une sorte de figure politique qui serait sur le retour et qui pourrait, du coup, donner sa bénédiction à d'autres, genre François Mitterrand qui dirait aux socialistes, toi, tu pourrais être candidat et tu vas gagner les élections. Enfin, c'était un peu ça le but de son personnage. Enfin, c'était ça que je voulais qu'il soit, c'est-à-dire que c'est son influence, elle est en tant que figure mythologique et non pas en tant que mage. J'ai l'air, il n'utilise pas beaucoup ses pouvoirs et sa magie, c'est la magie d'illusion. D'ailleurs, il l'appelle beaucoup le mage d'illusion. Enfin, c'est de la poudre aux yeux, hein, sa magie. Il fait des trucs comme ça avec des étincelles. Ça joue sur la vision, du coup, parce que voilà, c'est de la lumière. Enfin, mais il sert à rien. Et c'est le personnage masculin. Il fallait pas non plus qu'il soit trop important, quoi. Hein. Enfin, donc c'est le seul mage, mais il sert un peu. Enfin, faut voilà, je le limite dans ses, je l'ai nerfé pour pas qu'il soit trop. Et du coup, ouais, franchement, la magie, c'était simple. Moi, j'aime bien en mettre, mais j'avoue que à part pour les dragons, si on considère que l'existence des dragons, elle est forcément magique, mais pour moi, l'idée, c'était qu'elle soit plutôt pas scientifique, mais qu'elle soit naturaliste, on va dire, dans le sens où dans le champ des cavaliers, il n'y a qu'à part les êtres humains et les chèvres, parce qu'il y a des chèvres qui font de la laine, parce que j'aime beaucoup les chèvres, parce que je viens de la Drôme, en fait, du Picodon, enfin, voilà. Donc, il y a des animaux qu'on peut pas renier. la chèvre en l'occurrence. Et sinon, il n'y a pas de mammifères, il n'y a que des oiseaux. Et donc, les dragons, c'est un peu des griffons en fait d'ailleurs, hein, c'est pas des dragons avec des écailles, sorry. Et l'idée, c'était d'avoir, enfin, c'est juste une forme d'oiseau un peu évolué qui aurait eu cet espace de le faire dans ce monde-là, mais pas parce que. Pas parce qu'il y a une magie qui leur permettrait d'exister, et voilà, voilà, c'était vraiment...
C'est plus des animaux fantastiques que de la magie.
Ouais, on va dire ça, on pourrait dire ça. Et l'idée de la magie, que j'ai pas développée dans ce livre-là, mais que j'espère pouvoir faire dans le prochain, c'est vraiment de la magie technique et pratique, et vraiment, mon idée, c'était que ça passe par la fabrication et de faire des choses, donc je rejoins pas mal Monsieur Bennett dans la définition de la magie, de dire qu'on a un objet qu'on va écrire dessus. Moi, c'est ça, c'est on fabrique des objets et ces objets peuvent utiliser de la magie, à part pour Myrdine qui est un peu à part, mais il est un peu bizarre lui. Myrdine, c'est ma Marissou dans l'histoire, hein, c'est mon personnage un peu qui a tous les trucs un peu différents et tout.
C'est pas un Merlin idéal.
Non, pas trop. Ce serait un Merlin qui serait sorti avec Arthur en plus par ailleurs. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un côté tangible à la magie et pas de sorts qui volent dans tous les sens. Quoi, parce que pour moi, c'était vraiment. Enfin, moi, je suis un peu en rupture avec Harry Potter, en dehors du fait que J.K. Rowling est une grosse transphobe, mais parce que de base, j'ai pas.
Je suis contente que ça, c'est pas moi qui l'ai dit.
J'ai obligé de le sortir au moins une fois par jour pour rassurer. Mais en même temps, c'était du coup, j'étais pas trop dans une optique de. Je voulais. Mais pour rejoindre ce que vous disiez sur la magie dans la campagne, c'était important pour moi que de la magie vienne aussi de la nature. Pas dans le sens où elle serait magique, genre elle est formidable, ou elle est. Parce que la nature n'est ni bonne ni mauvaise, hein, elle existe telle qu'elle est, et elle a pas de loi morale. Ça n'existe pas la morale en magie ou en nature. Et vraiment, l'idée c'était d'avoir. Des présences dans la forêt, qui est un personnage du roman un peu à part entière. Il y a une magie qui existe, on va dire, plutôt du coup de façon fantastique. Elle est dans la forêt des pins bleus, qui est un espace onirique où les âmes vont après la mort et où on se balade quand on rêve et on peut peut-être voyager d'un pan à l'autre du plurivers avec, peut-être. On verra. L'idée c'était que ce soit un peu inaccessible peut-être aux êtres humains, à part sous des conditions de souffrance un peu, enfin, ou de sacrifices importants. Pour qu'on reste concentré sur de la politique, en fait. Parce que, en fait, j'avais juste envie d'écrire une histoire de moi médiévale avec des femmes qui font de la politique, en fait, très exactement. Et après, j'ai mis des dragons parce que ça se vendait mieux, mais.
Ne dévoilez pas tous vos secrets, jeune. Est-ce qu'on peut. J'ai été assez frappée par la façon dont vous ne faisiez pas justement de la magie un élément central, mais un élément un utilitaire plus qu'un élément central. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont me rejoindre là-dessus, que pour certains auteurs, je ne dis pas que c'est votre cas, hein, attention, pas d'attaque personnelle, mais pour certains auteurs, la magie n'est pas un peu une facilité? C'est-à-dire que c'est un peu le Deus Ex Machina qui ne dit pas son nom. Le fameux TGCM, que je ne développerai pas, mais vous savez tous ce que ça veut dire. Et je vais le dire en anglais pour Hélène.
C'est ta gueule, c'est magique.
Est-ce que c'est l'équivalent? Mais est-ce qu'en anglais, c'est « a wizard did it » Non? Oui, voilà. Les Anglais disent « ta gueule, c'est un magicien qui l'a fait ». Est-ce qu'on ne peut pas penser que, justement, mettre la magie au cœur de son récit, c'est, en tant qu'auteur et autrice, se permettre des facilités énormes? Jeanne, allez, c'est parti.
Je l'ai dans la main au micro. Je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire. Et clairement, moi, j'ai lu des textes avec de la magie qui était... on va dire centrale, voire Deus Ex Machina, genre Pierre Bottero, je pense, Les Quêtes des Boulins, ça rentre un peu là-dedans, et ça a été des livres que j'ai aimés de tout mon cœur et que j'aime toujours autant, et c'est des choses... pour moi, ça dépend de si on n'a pas du tout conscience qu'on le fait, ça peut être un peu un défaut, parce que le lecteur peut les lecteurs et les lectrices peuvent le sentir comme étant un manque de conscience de travail que l'auteur a dans son travail, mais c'est pas négatif dans le sens où ça peut être tout à fait utilisé tel quel. Enfin, ça peut juste être chouette d'avoir comme je sais pas, on va avoir des films de science-fiction où il y a des explosions et les mecs ils crient dans l'espace alors que c'est pas possible, mais c'est très toujours
l'espace
sympa.
L'espace est silencieux, rappelez-vous.
Mais c'est toujours sympa d'aller voir. Enfin, ça dépend ce qu'on cherche dans le texte. Voilà. Mais en même temps, moi, si j'allais voir Star Wars et qu'il n'y avait pas des bruits quand les clones ils sont absorbés, ça, les bruits de laser et tout, je serais un peu déçue, quoi. Parce que le son fonctionne aussi, mais normalement, dans la façon dont George Lucas a raconté son histoire. Et du coup, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Donc je serais pas, enfin moi je sais que j'en mets pas beaucoup et je pense que plus ça va aller, moins je vais en mettre. Mais pour le coup, s'il y en a beaucoup, ça me gêne pas d'en lire avec énormément de magie. Allez. Pauline.
Vous nous avez dit que vous, c'était important la magie, mais
alors, est-ce pour que est-ce... Moi, mais oui. Effectivement, dans mes lectures, pas forcément. C'est pour moi en tant que là pour la rocaille, c'était évident. C'est s'il n'y a pas la magie, on ne peut pas survivre sur la rocaille, donc il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage.
Mais est-ce que vous avez le sentiment de vous en être un peu servi parfois en mode bon ben là, je ne sais pas très bien comment m'en sortir ou enfin je vois pas l'auteur qui va dire ça. J'ai pas très bien su comment m'en sortir. mais est-ce que ça peut, est-ce que c'est une tendance, un truc qu'il faut faire attention, auquel il faut être attentif et éviter quand on écrit justement de pas faire de la magie la solution facile pour sortir d'un nœud à la Martine justement.
Non, moins que la magie fasse vraiment partie du système en fait. Si ça fait un tout, si elle est logique, ça peut être intéressant. J'essaie de me souvenir dans Rockheim, mais je crois pas. J'espère. Mais après, ça ne me choque pas si c'est un but de parodie, par exemple, et ça fonctionne bien, ou bien effectivement, si vraiment l'univers fonctionne comme ça, ou la magie est vraiment utilisée à tout bout de champ, ça peut même être rigolo au bout d'un moment, quelque part. Mais moi, j'avais vraiment besoin de la magie pour la survie, en fait, c'est la base. Ça me fait penser, d'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure, ça me fait un peu penser, pareil, un peu dans le roman d'Éléonore, où la magie protège du froid. La ville d'Hyperborée est protégée dans le froid. Et sur la rocaille, la magie nourrit, donc à chaque fois, c'est une magie dont on a besoin, sinon le monde qu'on a imaginé ne peut pas survivre, ne peut pas vivre, ne peut pas avancer. Et il n'y aurait pas d'histoire, du coup, s'il n'y avait pas la magie à la base.
Éléonore Non, oui, faisons simple. Ça ne va pas être magique.
Moi, quand j'ai écrit La Ville sans vent, justement, j'ai essayé de faire l'effort de créer un système magique cohérent. Et à partir de là, j'étais bien embêtée parce qu'il fallait le garder cohérent. Donc, évidemment, les facilités scénaristiques de et tout d'un coup, il y a cet énorme truc de magie qui tout d'un coup arrive et qui sauve la situation des personnages. J'ai essayé de ne pas y avoir recours. Et donc, ça veut dire que j'ai passé quand même pas mal d'heures à regarder mon plafond allongé sur mon canapé, à essayer de comprendre comment j'allais sortir mes personnages de la mauvaise affaire dans laquelle ils étaient fourrés. Donc,
et qui n'était pas de votre faute, bien sûr.
Non.
Les personnages se mettent tout seuls dans les embarras, c'est bien connu.
Non, donc c'est vrai que oui, le Deus Ex Machina, j'ai un peu tendance à le voir comme une facilité scénaristique, mais après, comme le disait très justement Jeanne-Marianne, parfois ça fait juste trop plaisir. Donc, voilà, c'est un peu ça ma réponse. J'essaye d'éviter, mais et je trouve que justement le fait d'aller contre cette envie de recourir au TGCM, ça permet justement de développer l'originalité de son histoire, de son intrigue, etc. Donc, quelque part, les meilleures idées que j'ai eues, c'est en allant contre le TGCM. Quoi.
Et pour vous, Robert, qui...
That. Yeah. It made it, like, because, like, my magic is more technical, and a lot of, like, the fun twists are from, like, a loophole that is found in pre-existing rules, it made my life so much harder to have stuff happen. I would get notes from like my editor who would be like, can we do this but make it more delightful and clever? I don't know how, but can you just do that? And so it did feel a little bit like sometimes it'd be like, hey, Robert, do a flip. And like I would just have to, and they'd be like, no, not that one, do a new one. And so when I would come to the climax, it'd be like, okay, so we need to have the magic. So we know where the characters have to wind up and which choices they make and what needs to happen to make the plot go. But we need to have it be powered by magic, by these rules that pre-exist. It needs to touch upon what the characters are going through. And the magic also needs to refer back to the larger themes that are occurring in this story while also being comprehensible to the reader and make absolutely total sense. And I'd be like, fuck. I have absolutely no idea how I'm going to write this story. So I hope it looked effortless, but it definitely wasn't. You don't have to say fuck.
Yes, she will.
Alors, étant donné que mon système de magie est assez technique et que la plupart des retournements de situation qui se passent sont liés à, justement, des choses qu'on a oublié de préciser dans la magie et du coup, on peut s'en servir, En fait, ça m'a mené une vie très difficile au final. Et des fois, j'avais mon éditeur qui m'appelait, qui me disait, alors est-ce que tu peux me faire ça, mais alors un peu plus drôle et puis un peu plus intelligent, s'il te plaît. C'est genre, bon, allez, maintenant, voilà, tu me fais une roulade. Ah non, pas comme ça, une autre. Bon, il y a un moment, ça devenait compliqué. Et du coup, j'arrivais à un endroit dans mon histoire où il se passait quelque chose de très important et il fallait que je trouve un moyen de m'en sortir en respectant les règles de la magie, en respectant les personnages et leurs caractères, et que ça ait un sens pour le lecteur. Bon, bah, il y a des fois, franchement, je savais plus trop comment j'allais m'en sortir. Et j'espère que quand on lit, on a l'impression que bah, ça s'est fait tout seul, hein, mais vraiment pas.
Bon, il y a des choses que j'ai qui ne concernent pas tous d'entre vous, mais il y a des choses qui m'ont quand même marqué dans vos choix. Alors là, je vais parler de choix littéraires. C'est l'incipit au-dessus du chapitre pour commencer son chapitre. Est-ce que Dune vous influence beaucoup? Est-ce que Pierre Bordage vous influence beaucoup?
Ça va être un peu une private joke, mais c'est parce que j'ai tourné avec Denis en tant que Timothée Chalamet, sosie officiel. Du coup, j'ai beaucoup.
Merci. Non. Hélène, she says that she's official.
Look-alike fan of Timothée Chalamet.
Oh. Donc Timothée Chalamet joue Paul Madib dans le dernier Dune.
Alors oui, moi ça vient. Alors, ça vient pas de Dune, ça vient pas de... C'est quoi l'autre exemple que vous aviez ?
Pierre Bordage, parce que Pierre Bordage aussi, dans une de ses séries, utilise l'incipit. Alors, pour ceux qui savent pas du tout, qui n'ont pas lu Dune ou qui n'ont pas lu Bordage, pourquoi pas, réparer ça. Hein, c'est ou Bordage ou Dune, mais au moins lisez un des deux. En fait, pour aider à la compréhension et à l'entrée dans le roman, sans passer beaucoup de temps à décrire son monde, à parler du world building, à parler du contexte, à expliquer le système politique, certains auteurs, donc Herbert et Pierre aussi, je pense qu'il m'en voudra pas de dire ça, mettent un petit tête de chapitre qui est issu soit de la Bible qui est liée au roman, soit issu des chroniques politiques écrites par un historien à propos de... Et ça permet vraiment de rentrer rapidement dans le roman. La princesse Irulan dans Dune dit à l'an 114 la famille Harkonnen a été chassée de Dune par l'empereur Shaddam, machin. Et en trois phrases, ça situe très rapidement ce qui permet au chapitre de rentrer directement dans l'action. Voilà. Moi, je trouve ça hyper intéressant et en même temps pas forcément facile à faire parce que ça veut dire qu'il faut avoir construit derrière tout une chose. Et il y a des gens qui trouvent ça pas intéressant du tout. Voilà. Donc, c'est ma question, c'était. Mais Jeanne, c'est pas la seule pour laquelle j'ai trouvé une référence, des références à Dune aussi. Il me semblait que je reprends mes notes. Dans Rocaille, alors d'une autre façon, pas par l'incipit cette fois, mais dans Rocaille, je ne peux pas m'empêcher de penser que tout d'un coup le monde qui oppose le vert à la dune et à la rocaille, c'est forcément Dune, justement. C'est cette ambition, ou peut-être que je me trompe, hein, mais...
Je ne l'ai pas vu.
comme quoi les grandes idées... Non, mais c'est intéressant aussi de se dire que les grandes idées parfois sont dans l'air et que les auteurs s'en emparent sans forcément se copier les uns les autres. Voilà, moi j'avais discuté avec Jacqueline Carré sur le fait que son héroïne ressemblait beaucoup à Angélique Marquise des Anges. Elle avait forcément jamais lu Angélique Marquise des Anges, qui n'a jamais traduit en anglais. Et en même temps, voilà, les grandes idées peuvent être dans l'air et pas s'inspirer les unes des autres, sauf pour J.K. Rowling, qui effectivement est transphobe.
Moi, c'est pas de ça. Alors, j'ai oublié que dans Dune, c'était le Zia. Je l'ai lu, mais j'avais oublié qu'il y avait ça. J'ai pas lu Pierre Bordage, enfin, je pense, un ou deux, quoi. Et par contre, ça vient d'un roman, ça vient très précisément d'un roman, et c'est une inspiration qui est assumée, enfin, de ma part. Ça vient de La Prophétie des Magiciens, qui est un roman de Hélène Breda, qui est un roman qui n'a pas eu beaucoup de succès, qui n'a pas eu beaucoup de vie, enfin, qui est moi, je ne l'ai plus édité du tout, hein, donc on ne pourrait pas le trouver malheureusement, parce qu'il est vraiment trop bien. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai aimé, mais plus que tout, il y a tout ce que j'aime dedans. Une meuf qui se fait passer par un mec pour entrer dans un ordre avec que des mecs qui sont des chevaliers, des prophéties. Pour le coup, il y a de la prophétie, c'est clairement une élue de ouf. Et elle a tout, tout tourne autour d'elle, mais moi, je l'aime mais plus que tout. Et au début de chaque chapitre, il y avait ce petit truc, des textes de personnages qu'on connaît et qui viennent après et qui révèlent des trucs qui sont limite du spoil, entre guillemets, sur l'histoire, parce qu'ils vont nous dire des choses qu'on sait pas encore en fait sur l'évolution des personnages, et ça marche super bien. Enfin, en tout cas, moi j'ai adoré quand j'avais 10 ans et que je l'ai lu, en tout cas, et ça m'a marqué jusqu'à maintenant, et c'est vraiment resté, et c'était ça, clairement, à ça que je faisais, c'était vraiment pour cet exemple dans ce roman qui m'a tellement marqué quand j'étais jeune que je voulais faire la même chose dans Le Chant des Cavalières. Maintenant, je peux plus m'en empêcher parce que du coup je le fais dans le suivant, alors que à la base je voulais pas le faire. Et il faut que je me retrouve, que je retombe sur mes pattes, parce que du coup, des fois, j'ai commencé à écrire un truc, et en fait, je suis genre, ah ouais, j'ai dit ça, et c'est publié, donc c'est un peu canon, quoi. Sauf qu'en fait, j'ai un peu modifié le truc depuis, donc je suis embêtée. Enfin, il y a une histoire d'amour où il y a un personnage qui dit un peu en mode comme si elle écrivait bien plus tard, et du coup, là, je me suis retournée dans une pirouette que je mets dans le prochain où elle dit, j'aurais pu commencer comme ça, alors que ça reviendrait juste après. Enfin, bref, je me rattrape, mais mon texte moi-même, c'est pas très, très, c'est pas effortless pour le coup, du tout. C'est vraiment, vraiment gros et tout, mais bon. J'aime trop écrire ces petites choses au début, ça permet de changer de style et de s'amuser un peu dans l'écriture du roman, qui est un truc long et un peu fastidieux parfois. Et là, ça me permet de jouer avec écrire de la poésie, ce que j'aime beaucoup, mais jamais de façon, on va dire, honnête et au premier degré, toujours dans le cadre du roman, donc toujours en mettant ça à travers la bouche ou le stylo d'un personnage qui existe, jamais personnellement, quoi. Et je voulais aussi pouvoir écrire un peu, pouvoir développer aussi et donner envie au lecteur de se dire, ah, il y a un monde autour qui existe. C'est le premier routier de ça, c'est de rentrer directement dans l'histoire, comme vous le disiez, sur un chapitre. C'est toujours lié un peu à ce qui va se passer dans le chapitre, mais aussi de mettre en place des mécaniques de commentaires sur, dans Chant des Cavalières. Il y a beaucoup le commentaire d'un auteur qui appartient à une autre vie, il y a une ville qui n'est pas dans le royaume, qui n'est pas non plus chez leurs ennemis des
Comtes et Savès. Vous en dites trop,
mais je dis rien.
Je sais que vous aimez entendre tout ce que les auteurs et autrices ont à raconter sur comment ils écrivent, mais parfois elle en dit trop. Mais c'est le début, vous apprendrez à en dire, mais c'est normal d'être très très. Mais je pense que sur le mot spoil, à mon avis, hein, mais je peux me tromper. Je suis désolée, on arrive à la fin et j'avais encore plein de questions à vous poser, notamment sur la façon d'écrire avec des visions plurielles à plusieurs voix, sur le fait que pour Robert, revenir dans un univers sur lequel il a déjà écrit, c'est pas une chose intéressante et il aime changer et ne pas revenir sur des univers qu'il a déjà habités, alors que parfois ça peut être vraiment intéressant de revenir sous un autre angle. J'aurais aimé savoir pourquoi chez Pauline, effectivement, même si elle n'a pas lu Dune, cette idée de reverdir une terre rocailleuse, c'était aussi fort. Enfin voilà, il y avait des tas d'autres questions à leur poser. Je suis désolée de ne pas les avoir toutes posées. Vous en aviez peut-être vous aussi. Je vous propose d'aller les voir en signature, d'aller les retrouver là où ils vendent leurs livres, où ils proposent de dédicacer leurs livres, et puis peut-être de les retrouver sur une autre table ronde. Merci à vous quatre. C'était très intéressant et je suis contente d'avoir animé cette première table ronde pour moi ici, et j'espère vous retrouver bientôt. Merci à tous.